RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h03 de retour dans Ici c'est Willy avec François Pinet et Jean-Louis Tour.
On est là,
toujours là.
Toujours présent, monsieur.
Oui, bah, bien sûr.
Et puis on a fait un petit changement. On, oui. on a viré l'américain.
Oui.
Enfin, le guide américain, on l'a viré. Et puis il y a Roland Courbis et Rio Mabouba qui s'arrivent.
Salut, amis.
Salut, salut, bonsoir à tous.
Ça va, Rio?
Ça va bien, merci.
Ouais. Ouais. Ouais.
Rio qui a rayonné lundi lors du match de l'After. Il était sur le terrain,
il
lui.
Il a régalé.
Alors, ouais, il est bon, y a notamment une scène avec François Pinet assez incroyable qu'on a raconté en début de semaine. Je voulais quand même avoir l'avis de Rio.
Non, les images.
Les images.
J'ai pas revu, moi, les images.
Circulent sur les réseaux sociaux. Mais il a failli te déborder, non?
Ouais, il tente à
déborder. T'as paniqué, hein?
Ben, je suis un peu pris de panique, tu vois, je le vois, mais en fait, il arrive à bout de course.
Non, mais tu t'es dit, non, mais t'étais pas paniqué, tu t'es juste dit, non, mais c'est pas possible, c'est quand même pas lui.
Non, mais
qui
j'ai tenté, je me suis dit, je vais tenter.
Mais là, je t'étais belle quand même. Hein.
Mais
t'arrives en fait, à bout de course, mais pourquoi?
Mais ben, j'arrivais plus. J'arrivais plus à
je rigolais,
mais j'en avais
je rigolais déjà en fait.
C'est ça qu'il nous a raconté avec du coup. Sa gueule là, pendant l'action.
C'est ça que j'ai entendu.
Lactique.
Ouais, je pense.
Ah, je sais pas, j'arrivais plus à me contrôler. Je suis tombé tout seul.
C'est l'acide lactique, ça, François.
Et j'entendais rigoler là à côté. Hein.
Oh, mais là, bon, il a le droit.
Non, mais avoue que t'as eu peur à un moment. Tu t'es dit.
Franchement, non. Par contre, j'étais surpris par toi. Hein.
Ah ouais?
T'es pas mal. Ouais, dans les buts, t'as
vu ça?
Ouais.
On se débrouille. Ouais.
Hein. Roland, tu l'as vu, toi, le match?
Mais non. Non. J'ai pas pu, mais j'ai eu des échos.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que on voit que tous les anciens pros, ils ont un point commun quand même, c'est qu'ils parlent
sur un
terrain à chaque action, tout le temps.
Ah,
pour mettre la pression, pour déstabiliser, voilà. Faut être solide, hein.
Qui ont essayé de mettre un peu la pression, toi,
mais tous, Rio Mabouba, Christophe Dugarry, Pierre Ducrot, Benoît Chéroux, tous.
Après un arrêt,
ils viennent me voir. Fais gaffe, le prochain, la relâche pas et tout.
Attends. Ces mecs-là, ils étaient face à toi.
Ouais.
Et t'as gagné?
Et on a gagné au tir
au but.
Oh là là là.
Performance. T'as vu ça? Bon, allez, on va parler de vrai foot. Hein. Dans la deuxième heure, d'ici c'est Willy. La Juve donc est tombée d'accord avec Maurizio Sarri pour le poste d'entraîneur. Un choix étrange vu d'Italie qui fait polémique. Simone Rovera nous expliquera pourquoi. Des infos à Marseille où André Villas-Boas est au travail. On vous en parlera dans le Focus Ligue 1 à 19h30. On aura une minute Mavouba également sur les espoirs. L'Euro qui débute dimanche pour les Bleus. Ce sera les Bleuets. Ce sera mardi. On en parlera donc dans un instant.
RMC.
On s'en fout de l'argent. Mais François, on s'en fout de l'argent.
Willy contre-attaque.
Je crois que tu parlais à Santi, notre ancien
t'as
recruté.
C'était pas moi, oui.
D'où le contrat. Bon, bah voilà, c'était comme ça à l'époque.
Et justement, t'as vu ça?
Mais oui, bien
pour
sûr.
Ça. Je suis pas
venu
pour
ça. T'es bénévole d'ailleurs. C'est important
non,
de le préciser.
Non, il faut pas mentir aux gens.
Mais c'est tout comme.
Bah non, c'est bien, mais c'était pas l'objectif. C'est pas l'objectif, on s'éclate ici, voilà. Non?
Exactement.
C'est pas heureux ici, Jean-Louis?
Mais non, pas du tout, on se régale tous les soirs.
Ouais, c'est
bien
pour
sûr.
Ça. Bah, d'ailleurs, tiens, il paraît que moins 30% l'année prochaine, ça te dérange pas, tu t'éclates!
Bon, et alors, on va en reparler quand même.
Ah,
bon, allez, place à Lille, tout de suite dans Ici, c'est Willy. On annonce depuis la fin du championnat un gros mercato avec beaucoup de départs pour le deuxième de Ligue 1. Faut-il donc se préparer à une saison galère l'an prochain ou pensez-vous que l'équipe pourra rester compétitive, notamment avec le réseau de Luis Campos, capable de dénicher des pépites. Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Willy, comment tu vois, toi, la saison prochaine de Lille? Pour l'instant, il y a assez peu d'infos sur le mercato. Hein. Tout le monde est là parmi les joueurs majeurs. On a parlé de l'arrivée de Timothée Weah qui va être officialisé d'ici peu en provenance du PSG.
De toute façon, aujourd'hui, c'est Pépé.
Enfin, c'est en négociation, pardon. Ça voilà, va pas être
aujourd'hui, aussi... c'est Pépé. Que fait-on de Pépé? Combien on le vend? Où est-ce qu'il part? Et est-ce qu'il part? On pense que oui, qu'il devrait partir normalement.
Ouais. Après,
oui, normalement il devrait partir. Après, c'est tout dépend aussi les attentes du club de Lille.
80 millions, c'est ce qui est annoncé, ce qu'attend Lille en tout cas.
Oui, non mais oui, bah 80 millions, c'est un joueur qui a jamais. Alors, il a fait une super saison. Attention, je crois 21, 22 buts, 10-12 passes décisives.
Monsieur 50%.
Donc voilà, donc saison exceptionnelle. Il nous a régalé parce que de toute façon toutes les actions quasiment de Lille, ça partait de lui. C'est à un moment donné, il était soit à la finition, soit au départ. Après, 80 millions pour un joueur qui n'a jamais joué la Champions League.
Ouais, mais bon, quand on le voit faire ce qu'il a fait, on peut se dire quand même qu'il ne peut pas lui reprocher de ne pas encore l'avoir joué. Mais il va jouer.
Non, mais ça, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir encore joué.
Pourquoi il échouerait en Champions League?
Ah, mais non, mais je ne dis pas qu'il va échouer. Mais c'est juste que. Voilà.
C'est, est-ce que Lille va vendre Pépé?
Mais dans les prix actuels, 80 millions, je trouve même que ce n'est pas.
Non, mais Roland, c'est que. Enfin bref, 80 millions, est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 70, est-ce que ça va être peut-être 65 à la fin? Je veux dire, ça fait qu'il peut y avoir un delta de 15 ou un peu plus millions d'euros, ça peut être un ou deux joueurs supplémentaires que le club peut-être ne pourra pas acheter. Je pense que la vraie pierre, moi ce que je veux dire, la pierre angulaire, c'est Pépé. Combien ça va rapporter dans les caisses et donc combien ils vont pouvoir remettre sur le marché des transferts.
Mais tu penses que Derek sont capables quand même de le remplacer, alors même si c'est difficile de remplacer un joueur comme
essayer,
ça.
Il faut pas essayer.
Mais au moins d'avoir des joueurs pour pas trop perdre en compétitivité.
Tu peux pas aujourd'hui te dire voilà, on avait Pépé, il faut qu'on trouve son clone. C'est pas possible parce que le Pépé de l'année d'avant, bah c'était pas le même que l'année qu'il vient de faire. Donc tu vois, c'est toujours difficile de
Moi je te rejoins Willy, je pense que pour remplacer Pépé, il faudra pas trouver un autre joueur. Mais, je pense être collectif. La solution sera collective.
C'est
et je pense que les joueurs comme Bamba, Ikoné, eux, ils prendront aussi plus de responsabilités.
Exactement.
Et ça pourra peut-être compenser avec une recrue en plus, forcément.
Exactement. Et c'est ce que Galtier en a parlé en fin de saison dernière, quand on savait que Pépé allait déjà partir. Et je crois qu'il l'a dit. Il a dit, il faut pas qu'on essaye de trouver le même, parce qu'on n'y arrivera pas de toute façon. Donc ils vont partir peut-être, essayer peut-être un autre système de jeu. On sait jamais. Mmh. Peut-être l'année prochaine, jouer peut-être à deux attaquants. Ou trouver profil pas tout à fait comme Pépé, mais peut-être plus un finisseur qu'un percuteur. Oui. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils sont dans une réflexion qui est globale, que ce qu'ils vont prendre exactement en transfert, ça va être aussi quand même quelque chose de un élément important. C'est que le club aussi doit surtout le propriétaire doit rembourser énormément d'argent auprès de, alors je sais pas si on appelle ça des créanciers ou enfin il doit rembourser l'emprunt d'obligation, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a aussi beaucoup d'argent à rembourser. Combien ils vont être en mesure de mettre, et surtout c'est ils passent d'une saison où ils n'ont un seul objectif entre guillemets, c'était le championnat, à une saison où il va y avoir une Coupe d'Europe,
oui.
Où ils vont être attendus, où les joueurs les mêmes quasiment qui étaient l'année avant où ils étaient catastrophiques, ils ont fait une saison extraordinaire l'année dernière. Est-ce qu'ils vont, cette année, est-ce qu'ils vont refaire une saison extraordinaire? Est-ce qu'ils vont refaire la même chose qu'il y a deux ans? Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas savoir, que c'est difficile de dire quelle va être leur saison. Mais ce qui est sûr, pour refaire la même saison, ça va être extrêmement compliqué.
Coach, ce qu'il y a de sûr quand même, c'est que la construction d'un groupe à l'intersaison, quand tu joues la Champions League ou quand tu ne la joues pas, est totalement différent. Déjà, pour la qualité, ok, là il faut remplacer Pépé, mais tu peux le remplacer par deux joueurs, ou voire même trois, mais surtout c'est plus la même quantité et c'est plus la même gestion dans le vestiaire, donc tu as beaucoup plus de joueurs et la gestion est beaucoup plus compliquée. Alors après, est-ce qu'il y aura un bon parcours? Est-ce qu'il y aura déjà un bon tirage? On va le savoir dans les semaines à venir, mais que pour que Lille, Pépé ou pas Pépé, puisse renouveler la saison de cette année, ben ça sera, je veux dire, pas impossible, mais ça va être très compliqué.
Sachant qu'on parle du départ de Pépé, il y a un autre joueur majeur qui pourrait partir, c'est Mendes au milieu de terrain. Là aussi, ça va être un joueur important à remplacer. Et a priori, sur le 11 titulaire, ça devrait être les deux seuls départs.
Les deux gros, ouais. Et même au-delà de...
Il y avait le départ de Soumaoro aussi.
C'est ça, mais... Ah oui, Soumaoro, bien sûr.
Mais comme il y a déjà Gabriel qui joue...
Mais c'est vrai qu'on parle... Les deux seuls départs, heureusement, qui transfère le gardien aussi. Donc après, t'as plus grand-chose.
On parle beaucoup de Pépé, mais ce qui a été une des forces de Lille, je trouve, c'était leur secteur défensif.
Oui.
L'apport de Fonté, ouais, voilà, Fonte, Maignan. Ils ont quand même cette base quand même pour l'année prochaine. Et surtout, il faut qu'ils arrivent aussi à...
Qui a prolongé aussi au milieu.
Aussi, voilà, ça fait partie de leur colonne vertébrale. Et s'ils arrivent à garder les deux latéraux, parce que Célix, ça a été quand même une révélation.
Ouais.
Il y a Koné qui est titillé par Lyon. Ça va être quand même très important.
Hein. Ouais. Et après, il y a aussi un élément qu'il faudra prendre en compte, c'est que Lille, cette année, c'est une équipe qui a beaucoup couru.
Oui.
Ils avaient des joueurs qui couraient beaucoup.
C'est vrai.
L'année prochaine, c'est vous jouez pas samedi, vous rejouez le samedi d'après, encore le samedi d'après. Ouais. L'année prochaine, c'est vous jouez le samedi, vous rejouez le mardi, vous jouez le samedi, vous jouez le mardi, le mercredi, le dimanche. Vous jouez tous les 3-4 jours. Donc, certains efforts qui ont pu être faits cette année, l'année prochaine, ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir un nombre de matchs beaucoup plus élevé. Donc, peut-être, comme on disait, une façon de jouer peut-être un petit peu différente. C'est, il faut, après, ça va être le travail de Galtier. Ouais, ça va être son travail.
En fait, tu le sais aussi bien que tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué parce que tu as aussi le risque de blessure qui augmente avec ces matchs tous les trois jours.
Non, tu as
donc alors c'est quand même totalement différent.
Toi, je sais pas ce que t'en penses, Roland. Moi, je pense que le risque de blessure n'augmente pas avec le nombre de matchs. Enfin, sauf si tu fais 70 matchs par année.
Non, on s'est pas bien compris. Quand tu prends un coup, même sur une blessure qui est pas grave, 3 jours après, tu n'es pas opérationnel, alors que 8 jours après, tu pouvais l'être.
Ouais.
Je t'ai pas dit que tu vas te faire les croiser.
Non, mais là où on se dit toujours, oui, quand on va jouer plus de matchs, il va y avoir plus de blessés.
Mais c'est vrai
qu'ils
ont été épargnés par les blessures, hein, cette année aussi. Là.
Oui, mais il y a une chose, c'est que ça va demander aux joueurs, je dirais, un professionnalisme encore plus important, et même beaucoup plus important qu'ils ont eu cette année. Le fait que cette année, quand tu joues le samedi et que tu rejoues le samedi, lundi soir, tu peux te faire ta pizza tranquille, c'est pas ça qui te met en danger ton week-end. Mais quand tu joues tous les 3-4 jours, si tous les lundis t'as envie de te faire ta pizza, et ben au bout d'un moment,
on sait. En plus, avec un effectif jeune, donc ça va être plus compliqué. Ouais,
on sait à quel point aussi une mauvaise campagne européenne peut plomber la suite de la saison. Lille sera chapeau 4 après en Ligue des Champions, enfin c'est même sûr, hein, vu le coefficient UEFA. Donc ça risque d'être des matchs assez relevés. Et on sait que si jamais ça se passe pas bien en Ligue des Champions, ça peut avoir aussi un impact en championnat.
C'est extrêmement dur, mais il y a des clubs qui le font très bien, il y a des clubs qui sont habitués à ça. Quand tu as des clubs comme Lille, il faut, je pense, en interne, définir très rapidement les objectifs et les compétitions qu'on met en avant.
Quitte à mettre la Ligue des Champions de côté ?
Je dis pas qu'il faut mettre de côté. Peut-être que ça peut être le choix de dire la Ligue des Champions, on veut se qualifier pour arriver en 8e,
clairement,
ou quart,
pour
en demi.
Les déclarations des trois dirigeants.
Ou 3e pour l'Europe.
Ouais, mais les déclarations des trois dirigeants, c'était ils veulent pas faire de la figuration.
Ouais.
Ils veulent essayer de sortir des poules.
Non, mais, c'est, mais ça, de toute façon, ça c'est.
Ouais, bon. Je pense qu'on peut faire confiance à ce trio, justement.
Non, mais les dirigeants, c'est toujours les mêmes. Avant une saison, c'est quand tu dois jouer une Coupe d'Europe, ils disent on veut tout jouer. Oui, mais si tu veux tout jouer, il faut mettre les joueurs à disposition. Il faut mettre un peu les pépettes pour pouvoir acheter et avoir un effectif assez large pour pouvoir mener toutes les compétitions. En tout cas, essayer de jouer à fond toutes les compétitions. Mais tu peux pas avoir l'effectif de Lille cette année moins Pépé, moins Mendes. Même si tu les remplaces par 2 joueurs, tu peux pas avec cet effectif faire 60 matchs dans l'année et te faire 60 matchs de haut niveau. Ce n'est pas possible.
Oui.
Et donc les dirigeants, parfois, ils ont du mal à le comprendre, mais c'est comme ça. Tu as, à un moment donné, il faut que Galtier, avec ses joueurs, mette des priorités en place. Et les coupes nationales, peut-être qu'on les laisse de côté. Voilà. Peut-être qu'on joue championnat, Champions League, mais les coupes nationales, non, on mettra des jeunes, on fera tourner un peu.
Tu verras au mois de janvier si tu es toujours en Champions League.
Oui, mais le problème, c'est tu l'as vu avec Monaco. Si tu fais 6 premiers mois catastrophiques, même si en janvier tu n'es plus en Champions League, ça te plombe aussi ta deuxième partie de championnat.
Non, mais je veux dire par là que en janvier, ça démarre là.
Ouais, pour les coupes nationales, oui.
La Coupe de France.
Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et à un moment donné, il faut faire des choix. T'as des clubs, on va dire type, je sais pas, je prends toujours ça en exemple parce qu'ils l'ont gagné souvent, mais le Séville. À un moment donné, leur objectif à Séville, c'était la Coupe d'Europe.
L'Europa League.
C'est l'Europa League.
Ouais,
et en championnat, si à un moment donné, il fallait aller perdre 1-0 à je sais pas, au Rayo Vallecano, et ben, ils allaient perdre 1-0 au Rayo Vallecano. Parce que leur objectif, c'était d'aller à la fin de cette Coupe d'Europe. Et je pense que Lille fait de ces équipes-là qui doivent à un moment donné avoir une priorité.
Très bien, 19h16, on enchaîne après Lille sur la minute Mavouba.
J'espère que vous lâcherez le brassard, hein, je le veux.
À qui tu parlais là ?
Je pense que je parlais à Captain Larquet, je pense.
Ah, lâche le brassard. Très bien, très bien. Alors, Rio, tu voulais parler des espoirs qui débutent mardi l'Euro, en sachant que la compétition débute dimanche. Les Bleuets débuteront face à l'Angleterre avant d'enchaîner avec la Croatie et la Roumanie. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette génération ?
Non, mais justement, on parlait de l'Eurosport parce que je pense que ça fait depuis 2006 qu'on n'a pas eu une équipe qualifiée.
Qui était capitaine ?
Si je vous demande qui était le capitaine, je pense que vous ne savez pas.
Et lui,
évidemment. Non, mais vraiment, c'est pour parler de ça.
Parce que, d'ailleurs.
De finaliste, oui. Ouais. Parce que je trouve que le travail de Ripoll, il faut le mettre en avant. Hein. Il a su. On a souvent des jeunes joueurs doués qui percent en Ligue 1, mais qui ont du mal à composer une équipe, un collectif. Je pense que tu dois savoir, hein, t'es passé par ces générations-là, c'est quand même assez compliqué.
Je vais m'entraîner les espoirs.
Oui, voilà. Donc là, il a réussi à les qualifier. Et je pense qu'il y a une belle génération. Il y a les Aouar, Dembélé, comment il s'appelle, ceux de Lille, Ikoné, Mamba. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à voir. Et cette génération, elle peut aller au bout. Donc voilà, je pense qu'ils vont peut-être être un peu noyés à cause de l'Euro, de la Coupe du Monde féminine. Donc je pense qu'il faut mettre peut-être un peu plus de lumière sur cette équipe.
Ouais, bah surtout, faudra faire un meilleur match que face à l'Autriche.
Oui, j'ai vu, ils ont perdu 3-1, mais
ah bah moi à un moment donné, je me suis demandé si les joueurs avaient envie de jouer.
Ouais.
Vraiment.
Ça peut être ça le risque, les joueurs un peu dilettantes.
Il y a toujours des risques. Moi, il faut surtout, j'ai beaucoup entendu ces derniers mois dire ça y est, enfin, elle se qualifie, cette génération. Il faut tout de suite remettre les choses au point. J'avais essayé d'en parler une fois.
Oui.
L'équipe de France, ce serait, s'il y avait eu, parce qu'il y a eu un changement dans les règles de qualification pour le championnat d'Europe, si le changement avait eu lieu juste après 2006, toutes les équipes de France seraient qualifiées pour les championnats d'Europe.
Oui.
Parce qu'avant, le premier jouait quand même les play-offs. Là, c'est la première génération où
il y a
les premiers des qualifs ne jouaient pas les play-offs, étaient directement qualifiés pour le championnat d'Europe. Ouais. Donc quasiment toutes les générations se seraient qualifiées. C'est parce qu'il y a eu un changement
les play-offs, ouais.
Je dirais dans le règlement au niveau de l'UEFA. C'est pour ça qu'on s'est qualifié directement cette fois-ci, qu'on n'ait pas eu besoin de passer par les barrages.
Ouais.
Et on sait que souvent, à chaque fois, c'est dans les barrages que l'équipe de France, elle chutait. Moi, sur cette génération, je vois des joueurs jouer un bon mélange. Parce que t'as des joueurs un peu de devoir. On va parler des Touzards, par exemple. Ouais. Et puis des joueurs peut-être un peu plus offensifs. Mais j'ai pas le joueur qui me fait rêver.
Pardon?
Non.
Pas assez.
T'as pas le Mavouba de l'époque, c'est ça.
Ça fait six mois que Aouar, il a plus en difficulté.
Mais
je dirais le pépé de Lille, le pépé des espoirs, tu vois. Et je l'ai pas.
Ah, t'as le petit Ikoné qui...
Ah, c'est pas Ikoné, il a marqué combien de buts cette année en championnat?
Je vais te dire.
Non, il doit y en a quelques-uns quand même.
Hein, bah, pour un joueur qui jouait en soutien de l'attaquant, monsieur François Pinet va nous dire le nombre de buts.
Il est en train de regarder tout en répondant à Coach Courbis.
Je suis surtout en train de répondre à Coach Courbis, donc je peux pas tout faire, mais je vais vous dire.
C'est un bon joueur, mais il a pas une efficacité monstre, voilà.
Rio, en quoi ça t'a marqué pour le reste de ta carrière, cet Euro Espoir à l'époque? T'y pensais? Ça t'a aidé à grandir? Ça...
Non, franchement, quand t'es jeune, que tu débutes en Ligue 1, tu vis vivre cette expérience, c'est quand même assez enrichissant. Alors là, je pense que nous, on n'avait pas autant de matchs que ces jeunes-là ont. Ils sont quasiment tous titulaires dans leur club. Ouais. On avait peut-être 7-8 joueurs qui étaient titulaires et après, c'était souvent des remplaçants.
C'était qui le sélectionneur à l'époque?
C'était René Girard. Ouais.
René Girard.
Et ouais. Il connaît à marquer 3 buts cette saison.
Ah, voilà.
10 passes D, 3 buts.
Oui, mais 3 buts.
C'est la question de Will, il est.
Non, mais après, on va dire, c'est peut-être un groupe, un bloc, et peut-être qu'ils vont jouer en équipe et ça va être bien comme ça. Mais ça me manque un peu de folie. Moi, je trouve ça un peu de folie. Voilà.
Coach, comment tu vois cette compétition pour les Bleus, toi?
Ben, je trouve qu'il y a quand même une génération très intéressante. Je voulais pas modifier son nom. J'aime beaucoup celui.
Reine Adélaïde, voilà. Jeff Reine Adélaïde.
Celui d'Angers, là.
Lille est sur lui d'ailleurs.
Hein. Ouais.
Sous le contrôle de Rio. Lille.
Ah, bah oui, bon.
Il est formé chez le voisin Lensois.
Ils ont pas mauvais goût. Donc je vois une.
Oui, Rio. Il a été formé à Lens.
Je vois une belle génération. Alors après, évidemment, ça se joue à pas grand chose. Dernièrement, on a été déçus dans ce match de préparation parce que. Effectivement, ça donnait l'impression d'un match où, avec des joueurs qui préféraient être en vacances que de faire encore cette compétition qui est quand même importante. Mais j'attends avec impatience parce que je reste persuadé, avec en plus Ripoll qui fait du bon boulot, je reste persuadé que cette équipe-là peut créer la surprise, une demi-surprise, puisque je pense qu'ils ont fait partie des trois favoris.
Vous avez vu que Didier Deschamps leur a mis la pression aussi, hein. Le discours devant les joueurs, en rappelant l'importance du maillot, de l'investissement de chacun. Ça peut motiver ça d'avoir le sélectionneur DA qui parle avant la compétition?
Clairement. Ils savent qui l'a installé. Ils sont quasiment tous à la porte, hein, même s'il y en a certains qui ont plus de boulot que d'autres. Mais évidemment, quand le sélectionneur vient de parler, tu prends. Ouais. Tu sais que si tu fais un bon euro et que tu peux aller au bout, ça va, on va bien te regarder. Hein.
Quand il va parler aux féminines, elles n'ont aucun espoir.
Mais non, ouais. Par exemple, en 2006, même si tu fais un demi-finale, il y en a que 10 sur les 22 qui passent ensuite en A. Comme quoi, c'est pas forcément logique de voir les espoirs, même s'ils brillent. Allez, il y a quand même une grosse part.
Oui, c'est pas
le cas. C'est une belle génération, mais il y en a peut-être.
Mais c'est important un peu de matérialiser.
Seulement la moitié qui rend en équipe.
Ah, mais c'est sûr que tous ne sont pas passés, mais il y a quand même une bonne dizaine, comme tu as dit.
Ouais, voilà, ouais. C'était 10 sur 22. Il y avait Gourcuff, Toulalan.
Sur les 7 derniers matchs, cette génération n'a gagné qu'une fois.
Oui. 7 derniers matchs officiels?
Bah oui. Quand tu regardes tous les matchs qu'ils ont fait, ils avaient gagné contre le Luxembourg en septembre dans les qualifs. Après, ils ont gagné contre la Turquie. Après, c'est match nul face à la Slovénie. C'est match nul face à la Croatie. Match nul face à l'Espagne. Match nul face à l'Allemagne. Défaite contre le Danemark. victoire contre la Belgique, défaite contre l'Autriche.
Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai.
Donc à un moment donné, on peut dire que notre génération, il faudrait gagner un peu, les gars.
Ouais, hein, ils cachent leur jeu.
Alors, voilà pour les espoirs. On suivra la compétition, bien sûr, sur RMC avec nos envoyés spéciaux. L'info vient de tomber sur le site du Paris Saint-Germain. Ah. Officialisation de l'arrivée de Leonardo, donc comme directeur sportif, ce dont on vous parle depuis quelques jours sur RMC en avant-première. Et rendu officiel par le club, donc vraiment directeur sportif, hein, pour Leonardo. Et sur le site officiel du club, il y a un petit mot de Nasser Al-Khelaifi qui parle d'un moment particulier pour le PSG en rappelant le parcours de Leonardo, notamment comme joueur au PSG avec ce fameux PSG Bucarest de 97 où Leonardo est présent et fait plusieurs passes décisives. Il est extrêmement enthousiaste à l'idée de retrouver le PSG, etc. Bon, voilà les discours habituels au moment des officialisations. On a tout dit sur Leonardo de toute façon en première heure.
Bah non, on a tout dit, et puis maintenant, bah on attend qu'ils se mettent au travail et qu'ils nous fassent rêver avec de bonnes trouvailles.
Exactement. On suit également depuis 18h le match entre la Jamaïque et l'Italie. François, la Coupe du Monde féminine, où en est-on ?
Et large domination de l'Italie. Au score, c'est 3-0 pour l'Italie, alors qu'on joue la 66e minute de jeu. Et c'est la même buteuse, Cristiana Girelli, qui a marqué un triplé. La joueuse de la Juventus, qui pour l'instant permet à l'Italie de se qualifier, puisqu'avec deux victoires en deux rencontres, l'Italie se qualifierait, si ça en reste là, évidemment.
Très bien. Merci messieurs, coach Courbis, Rio Mavuba.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bon week-end. On revient dans un instant
bon
avec
week-end.
Le foot italien au programme. Sarri tout proche de la Juve. Est-ce que ça pose problème son arrivée ? On en parle avec Simone Rovera dans une seconde. A tout de suite dans Ici c'est Willy.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h28, toujours dans Ici c'est Willy jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour et François Pinet. Jean-Louis,
oui,
on accueille Simone Rovera.
Oui, on va parler de
Sarri. Il y a un petit problème avec Sarri, la Juve, Allegri qui est parti. Sarri, il avait des problèmes à Chelsea, il en aurait peut-être à la Juve. Enfin,
on va en parler avec Simone. On a des infos à vous donner aussi sur Marseille, l'OM, Villas-Boas qui travaille déjà, sera dans le Focus Ligue 1. Et puis dans un quart d'heure, il y aura également le buzzer Pinet, François.
Avec un moment très attendu par tous les supporters. Le moment le plus important avant la saison, c'est quoi ?
Eh ben, le calendrier,
évidemment. Tout le monde l'a scruté. On connaît le calendrier, les grandes dates, les affiches. Je vous donnerai tout ça dans un quart d'heure.
Et la question Pinet, alors ?
Ah, bah, la question Pinet, c'était justement sur Pépé et Lille. Je vais te la donner. J'étais pas prêt. Non, c'est est-ce que sans Pépé, justement, c'est la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Lille pourra-t-il jouer le podium la saison prochaine ? Et je vais essayer de te trouver la tendance. Mais bon, on peut avancer parce que pour l'instant, je l'ai pas.
Non.
Non, voilà. Bah donc la tendance, c'est non. Quoi qu'il arrive, débrouille-toi. C'est Willy qui impulse la tendance.
Si Willy a dit non, alors voilà. Ça va être non. Ouais, je pense que c'est ça.
On suit également Jamaïque-Italie.
Quatrième but à l'instant.
Pour l'Italie, donc.
Voilà, 4-0 pour l'Italie. Qui va se qualifier pour la suite de la compétition. 4-0 face à la Jamaïque. Voilà.
On parle d'ailleurs du foot italien tout de suite.
RMC.
Ronaldo !
Carré VIP de Willy.
Avec Simone Rovera, notre spécialiste du foot italien. Salut Simone.
Ciao, bonsoir.
Comment ça va ?
Écoute, ça va. Après les 80 buts, je suis tranquille là.
Oui, parce que t'avais tendu, peur à 3-0.
Ouais. Bah, on sait jamais.
C'est vrai que t'étais un peu tendu. Ah,
quelle frappe hein, du quatrième but, là, l'italienne là.
Écoute, c'est pas simple de marquer des buts. Donc,
Peut-être qu'elle ferait bien de donner 2-3 conseils aux garçons un peu. Parce que,
Oui. Même à moi, elle pourrait donner.
Tu peux nous en parler de la buteur ?
Galli, c'est Girelli.
Elle s'appelle Girelli. C'est celle qui a marqué.
Girelli a vécu une saison très belle avec la Juve. Elle a été victime de insultes sexistes à Florence parce qu'elle est un peu, elle est costaud.
Oui.
Et à Florence, qui est un peu la ville ennemie de la Juve, victoire de la Juventus 1-0 à Florence, but de Girelli, l'a insultée parce qu'elle disait que c'est grosse, tu peux pas.
Et Simone, c'est la deuxième italienne à marquer un triplé en Coupe du Monde. La première, c'était
91.
Joli, il est là. Bravo.
Bah, impossible de le piéger. Hein.
Oh, il a révisé.
C'est
bluffant. Hein.
Ce soir, finale, troisième place à la Coupe du Monde de moins de 20 ans de l'Italie face à l'Équateur.
Il est là sur tous les fronts, hein, Simone. Il est costaud. Écoute, également pour nous parler de la Juve. Alors, oui. Est-ce que Sarri s'est fait à la Juve ?
Non. C'est pas fait, mais ça va se faire. Qu'est-ce que ça...
Ça s'est accéléré ces derniers jours ? Ces dernières heures ?
Oui, il y a un petit souci, mais qui est grand, parce que ça, on part des millions d'euros. Chelsea demande une indemnisation pour libérer Sarri, comme il avait payé de l'argent à Naples pour l'avoir. Il ne veut pas le faire partir gratuitement, aussi parce que, selon les infos qu'on a, Chelsea a déjà choisi le prochain entraîneur, qui devrait être Frankie Lampard, et Derby County demande 3,5 millions pour libérer Lampard. départ. Donc, pourquoi Chelsea devrait libérer son entraîneur gratuitement et payer pour les prochains? Ça va se faire. Aujourd'hui, l'avocat de Sarri voyait Chelsea et l'agent de Sarri voyait la Juve pour déterminer un peu les deux situations. La signature du contrat, 2 ans avec une option pour un troisième et la clause à payer pour le libérer de Chelsea. On part d'une offre de la Juve de 4 millions pour bonus. On partait des 6 millions la demande de Chelsea. Donc, ça va se faire. Pour la grande joie des supporters de la Juve, non.
Oui, on va
attends,
en parler.
Attends, on ne va pas quand même me faire croire que pour la Juve, il est 4 ou 5 millions d'euros pour avoir un entraîneur, pardon, c'est une problématique. Ils ont filé 4 milliards à Ronaldo pour se faire sortir en quart de finale de la Champions League.
Oui, oui.
Donc, ils peuvent quand même bien sortir 4 ou 5 millions pour Sarri.
Bon. Écoute, c'était pas les premiers choix. Déjà, c'était pas les choix préférés des supporters, ou quand même c'était les pires
choix. C'était quoi, toi, Simone? Moi, je le sais pas.
Le premier choix.
Je m'y suis pas intéressé. C'était qui les supporters? Ils voulaient qui?
Sagnol.
Guardiola, pardon.
Guardiola. Il y a eu des négociations pour des.
C'est pas loin.
Il y a eu des offres. De la Juve à Guardiola qui va pas se libérer. Après, selon certaines informations, en Italie. Guardiola avait donné, on peut dire, un accord si jamais Chelsea aurait été exclu de la Ligue des Champions. Après, ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu des sentences, des sanctions. Donc, Guardiola reste l'entraîneur de City et la Juve a dû trouver un plan B. Et le plan B, Maurizio Sarri, qui ne fait pas exciter les supporters.
Explique-nous ça. Pourquoi, pour le grand public, pourquoi ça ne plaît pas?
Ça ne plaît pas parce qu'il a toujours été considéré un peu les losers pour les supporters de la Juve, parce que la Juve a battu Naples, a gagné un titre devant son Naples de Sarri après un tête-à-tête, et Sarri a toujours été un peu un entraîneur anti-système. C'est l'entraîneur qui disait que la Juve quand même faisait partie du pouvoir fort du foot italien, en s'opposant un peu. Il était considéré un peu le Che Guevara du football par ses supporters, il l'appelle le comandante. Donc c'était vraiment l'anti-Juve. Prendre quelqu'un que je rappelle tous, chaque fois, quand il y a eu Juventus-Naples, l'année dernière, il rentre à Juventus Stadium dans de Naples en faisant les doigts d'honneur aux supporters de la Juve.
Ouais.
C'est quelque chose d'un peu étrange. Après,
est-ce qu'on est sûr que c'était un doigt d'honneur?
Il y a des images.
Oui, mais il avait mal au doigt, c'est fin du match.
Ah,
voilà.
Ça t'arrivait Non. Avant le match, t'avais moins le doigt, ça t'arrive.
Non, mais tu vois, parfois, t'as des réactions.
Après, c'est une vraie révolution, quand même dans le jeu, de prendre Sarri. Juve, on a l'habitude avec Conte et Allegri qui. C'est pas forcément la possession. Sarri, c'est la possession, c'est un jeu différent.
C'est un jeu totalement différent. C'est même un message différent que tu envoies à tes adversaires, au football. C'est-à-dire, nous, on en a marre de gagner. On veut gagner mieux. On va gagner. On veut gagner autre chose. La question est, si Sarri a eu des soucis dans les vestiaires de Chelsea avec des stars comme Hazard et David Luiz, qu'est-ce que ça va être avec Cristiano? Ça, c'est l'autre grand point d'interrogation des supporters de la Juve. Mais je crois qu'un club comme la Juve ne peut pas faire ni un choix par défaut, ni un mauvais choix. Ça peut arriver, mais ils vont trouver la solution pour dire à Sarri, tu te coupes du terrain.
Ouais.
Et dans la gestion quotidienne des champions, il n'y aura toujours Pavel Nedved.
Il est capable de l'accepter ? Oui.
Je crois aussi qu'une occasion comme la Juve, ça ne t'arrive pas toujours.
Non, mais la raison, Sarri, s'il peut aller à la Juve, il faut qu'il y aille. On le voyait en Angleterre, il n'était pas heureux. On le voyait, il souffrait sur le banc de touche. On le voyait qu'il n'était pas heureux.
L'arrivée, sa saison est pas mal quand même.
Après la Juve, qui prennent Sarri, qui prennent Mourinho, ou qui prennent Guardiola, c'est leur choix. Moi, ce que je regarde, la Juve, c'est leur effectif qui me plaît pas trop.
Ah oui?
Moi, c'est leur effectif, c'est Mandzukic, ça avance plus.
Milieu aussi,
Dybala, il est beaucoup trop sur courant alternatif. Dans les performances, il est pas régulier.
Sarri était capable de faire marquer 20 buts à Mertens tant qu'avant-centre. Est-ce qu'il peut révitaliser Dybala? C'est un peu la question qu'on se pose.
Ouais, mais Dybala, ça fait plusieurs années que ça dure. C'est, à un moment donné, c'est très bon. 2 mois après, on le voit plus. C'est de nouveau très bon. J'ai l'impression qu'il a un problème de régularité parce que Allegri lui a fait souvent confiance à Dybala. C'est pas un problème de confiance.
C'est un joueur un peu plus éloigné du but. Donc,
ouais, mais tu peux
il a sacrifié beaucoup pour Cristiano.
Ouais, mais si tu mets tu mets Cristiano Ronaldo sur le terrain, tu peux pas non plus dire à Dybala reste devant et défend pas, hein, parce que tu vas pas défendre à 8 hein, au foot. Hein. Un ne défend pas, d'accord. S'il y en a deux qui défendent
plus, il faut s'attendre à quel mercato du coup à la Juve avec Sarri.
Déjà, on se posait la question, est-ce qu'il va, il va faire un autre transfert pour Jorginho après l'avoir amené à, à faire venir à Naples et amené à Chelsea? On ne croit pas. Les problèmes de la Juve, c'est que il y a un seul gros coup à niveau de disponibilité économique et la Juve cherche à tout prix de faire revenir Paul Pogba. La demande du Manchester, c'est très élevé, on parle de 150 millions. La Juve voudrait mettre dans la transaction un joueur comme Dybala pour faire baisser les prix. La seule certitude, c'est que Cancelo va partir parce qu'il y a une offre importante des City. Sur les arrivées, il faudra voir qu'est-ce que demande Sarri. Et pour l'instant, il y a pas des gros, il y a pas beaucoup de noms qui sortent. Il y en a énormément qui sortent, mais beaucoup de très concrets. Je crois qu'il y aura une profonde révolution, surtout pour les joueurs qui ont plus de 30 ans, Khedira, Mandzukic. Et attention, je pense aussi que un joueur comme Blaise Matuidi pourrait partir.
Ah,
je ne suis pas sûr 100% sur ça, mais ça commence à sortir.
Il irait où? Il irait où?
Au PSG avec Leonardo?
Non, en Chine.
Je ne sais pas, mais je sais
que jouer ailleurs. Il doit avoir 31.
Je sais que la Juve veut faire une grosse révolution au milieu du terrain.
D'accord.
L'arrivée des Ramsey, les rêves Pogba, il y a toujours des discussions 32, avec Adrien Rabiot. C'est quand même une équipe qui veut devenir un peu plus jeune. Et Matuidi et Khedira sont des joueurs qui ont fait beaucoup. Et les jeux de Sarri demandent beaucoup de courses, de possession. Je ne sais pas, c'est Matuidi, c'est les joueurs pour Maurizio Sarri. Je crois que s'il y aura la possibilité, une belle offre, vu que son agent, c'est quelqu'un que, de la maison, Juve, qui connaît très bien, Raiola, qui est en train de négocier la prolongation de Moïse Kean, les possibles arrivées des Pogba, si la Juve va décider de se séparer de Matuidi...
Il a le droit de retravailler en Italie, le pizzaiolo.
Et tout a été blanchi, il a été blanchi, FIFA l'a libéré, donc libéré, délivré. Et...
Très bien, allez. On va arrêter là-dessus parce que bon, là, ça va trop loin. Voilà, merci Simonet.
La Reine des Neiges, là.
Oui, non, mais c'est bon. Pas parce que t'as un enfant et que tu regardes la Reine des Neiges tous les jours qu'il faut nous le sortir.
Voilà, c'est ça. Presque, tu vois, je suis la fourmi.
Non, merci, c'est bon. Je te laisse faire des panenka. Merci Simonet. Bonne soirée. Nouveau but entre l'Italie et la Jamaïque. Quel festival, François.
Donc, ça fait 5-0 pour les Italiennes face à la Jamaïque dans ce match. Et donc, les Italiennes qui vont se qualifier sans trop de problèmes. On rappelle que Cristiana Girelli a marqué un triplé. Gali est la buteuse pour le 4e but. Et puis, je vous donnerai le nom de la 5e dans un instant.
Voilà. Très bien.
Pour l'instant, c'est une très bon match pour l'Italie.
On enchaîne avec la Ligue 1 Marseille. C'est parti.
Une autre compétition qui vient de commencer, les championnats du monde de babyfoot.
Le Focus Liga.
Le Focus Liga nous emmène donc à Marseille ce soir. On a quelques infos sur notamment les premières décisions d'André Villas-Boas.
Voilà, c'est voilà, ça, André Villas-Boas qui lui est arrivé lundi à Marseille. Il est resté jusqu'à jeudi, donc jusqu'à hier, pour faire des réunions de travail. Donc ça y est, il est au travail. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, il en a profité aussi pour découvrir la ville, le centre d'entraînement. Il a quelques idées pour changer tout ça et pour trouver aussi sa future résidence. Alors sur le mercato, il travaille avec Zubizarreta, main dans la main, c'est ce qu'on nous dit. Il a proposé plusieurs noms. La priorité, il y en a deux en fait, des priorités, c'est de trouver un buteur pour remplacer Balotelli, qui ne restera vraisemblablement pas. On parle de Marcus Thuram, le joueur de Guingamp. Mais Guingamp en demande beaucoup d'argent alors qu'il est en fin de contrat en 2020. Guingamp aimerait 20 millions d'euros et l'Olympique de Marseille n'est pas forcément prêt à mettre 20 millions Marcus Thuram.
Pas pour placer Balotelli.
Bah, en tout cas, c'est un des noms qui sort en attaque.
D'accord,
en attaque.
Bah, c'est pas le même profil.
Oui, bien sûr. Mais bon,
c'est un très bon joueur aussi, Thuram, mais c'est pas du tout le même profil.
Ouais. Et puis alors, autre urgence, c'est la défense centrale, puisque Abdennour, Ubokan et Rolando vont partir. Ils sont aussi optimistes pour une prolongation de Camara. Et puis en milieu de terrain, il faudra recruter si Strootman s'en va. Olivier Ncham, là, le joueur du Celtic qui avait à un moment donné intéressé les dirigeants marseillais, n'aurait pas été relancé. Il intéresserait l'Olympique Lyonnais désormais. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers pour Villas-Boas. Il n'y a pas beaucoup de noms qui sortent encore, parce qu'il faut d'abord, on le sait...
Déjà, qui trouve sa maison, il trouvera les joueurs après.
Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Très bien.
On sait rien. Qu'il soit bien chez lui.
Reprise le 1er juillet pour l'Olympique de Marseille.
Merci François pour ces infos.
Le 1er juillet.
1er juillet. Voilà.
Et grâce à Florent Germain, notre correspondant à Marseille, vous êtes également informé sur rmcsport.fr. On enchaîne avec les paris RMC.
Winamax, les meilleurs codes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
On parie ce soir avec Christophe Payet. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Salut. Sur Brésil-Bolivie, le début de la Copa América cette nuit.
2h30 du matin, il va falloir veiller jusqu'à 2h30, hein, Willy, pour regarder ce match entre le Brésil et la Bolivie.
Ah, personnellement, non.
Mais
non,
oui.
Je te le dis.
Non, c'est
moi,
pas
je te le dis.
Regarde la Copa América.
Non.
En tout cas, les Brésiliens sont archi favoris. C'est 1-0-7, la victoire de la Seleção. 12 le match nul. 45 la victoire de la Bolivie. Quand le Brésil organise la compétition à domicile, c'est arrivé à 4 reprises, le Brésil s'impose à chaque fois. Là, on peut imaginer, contre une des équipes les plus faibles d'Amérique du Sud, que ça passe sans trop de problèmes pour les Brésiliens. Alors, je vais vous proposer, pourquoi pas, avec but de Coutinho, c'est côté à 2-10. Je propose Coutinho parce que c'est lui qui tire les pénaltys, que Gabriel Jesus ou Firmino sont en dessous à 1,60 et 1,80. Après, ce qui est bien avec notre nouveau partenaire, c'est qu'on peut jouer deux buteurs d'une même équipe. Et Jesus plus Firmino 3,10, Jesus plus Coutinho 3,55, ça paraît être tout à fait envisageable. Et en fait, je vois bien un 2-0 ou un 3-0.
Qui débute en pointe, on le fait.
On n'a pas encore la compo officielle, mais bon, on sait que Gabriel Jesus jouera. A priori, Firmino ouais. devrait jouer. Coutinho aussi. Moi, j'ai un doute sur Charlison, mais je ne sais pas, Richarlison, si ouais. il sera titulaire non. ou pas.
Faut attendre les compos et jouer Coutinho voilà. plus le 9, quoi.
Exactement, c'est exactement
les
ça.
Les deux 9. Ils vont peut-être jouer à deux attaquants.
Tu crois ?
C'est possible. Oh.
Bah, si t'as pas Neymar, ils peuvent ouais. éventuellement jouer à deux attaquants.
Ah ouais, peut-être.
Alors, Willy, le Brésil, évidemment.
Oui.
Et pour faire grimper la cote, on fait quoi ?
Ils encaissent pas de but et ils en marquent au moins 3 voire 4 voilà.
Donc le 3-0 c'est coté à 4,30, évidemment le 4-0 c'est supérieur, je l'ai pas noté. Le 2-0 c'est 4,60, ça devrait tourner autour de ça.
Et les écarts ça donne quoi? Au moins 3 buts d'écart?
Eh ben au moins 3 buts d'écart, c'est pas énorme hein. C'est 1,70.
Ah ouais.
Et évidemment c'est 1,07 au départ. Willy dans le podcast des paris RMC ce matin avait proposé une cote intéressante. Le Brésil mène de au moins 2 buts à la mi-temps, ça c'est 2,10. Vous pensez qu'il peut faire la différence très vite, les Brésiliens?
Ouais, hein. Et puis surtout, je vois pas la Bolivie marquer de buts. Ils ont aucun potentiel offensif. Ils prennent pas trop de buts. Faut le signaler.
Ils en ont marqué 0 sur les 3 derniers matchs. Puis c'est vraiment très très faible en attaque.
Très faible devant.
Ok, on voit ce qu'on fait. Merci Christophe.
RMCsport.fr
pour retrouver tous les conseils de la Dream Team.
Winamax, les meilleurs cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans une seconde, le Pinet dans ici, c'est Willy. On est en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Ici, c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 19h47, c'est la dernière ligne droite. Jean-Louis, d'ici, c'est Willy. Et oui. Je crois que c'est l'heure du buzzer Pinet.
Exactement. On rappelle qu'il y a toujours 5-0 pour l'Italie face à la Jamaïque. La Coupe du Monde féminine est désormais place aux dernières infos qu'il faut commenter dans Ici c'est Willy, donc avec le buzzer Pinet.
Et avec ce calendrier donc de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs sur RMC Sport,
oui,
.fr, bien sûr, si vous êtes supporter d'une équipe, pour voir tout le calendrier.
François.
Oui, mais je ne l'ai pas donné encore.
Qu'est-ce
que tu vas me dire?
Il veut Saint-Étienne.
Celui qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il y a ASSOL?
ASSOL, j'espère que je l'ai noté parce que là je...
Attends, mais si t'as pas noté ça, t'as rien noté.
C'est vrai, j'ai même pas noté.
Il va noter, je suis sur PSG Marseille, les trucs.
Non mais alors
ça,
je vais vous le trouver. D'abord je voulais te dire que la première journée le 10 août, l'affiche sera Monaco-Lyon, dès le 10 août. Le PSG qui recevra Nîmes, Marseille-Reims, Strasbourg-Metz, un derby pour commencer, Lille-Nantes, Dijon-Saint-Etienne, voilà les Verts qui seront à Dijon, Nice-Amiens, Montpellier-Rennes, Angers-Bordeaux, et Brest-Toulouse. Voilà, ça c'est pour la première journée.
Saint-Etienne-Lyon, lors de la 9e journée à Geoffroy Guichard, le dimanche 6 octobre.
Voilà.
Lyon-Saint-Etienne, lors de la 27e journée, le 1er mars.
Heureusement qu'il est là,
un dimanche.
Parce que moi j'avais tenu Marseille-Saint-Etienne, dès la quatrième journée, le 1er septembre. Monaco-Marseille, ça sera la 5e journée, donc il y aura deux gros chocs pour Marseille d'affilée. Lyon-PSG, le 22 septembre, lors de la 6e journée. Et PSG-Marseille, que tout le monde attend. 11e journée, le 27 octobre. Enfin, Marseille-Lyon, ça sera le 10 novembre, affiche de la 13e journée.
Mais tu me disais, je ne vais pas noter quand même ce derby de clocher qui n'intéresse personne, là, en parlant de Saint-Etienne-Lyon. Là. C'est pour ça que tu l'as pas noté.
Ah, c'est ça, ouais, ça devait être ça.
écoute, il a, tu vois, le, il pense ce qu'il veut, mais bon.
Non, mais en fait, noter que les matchs qui m'intéressent. Non, j'ai oublié. Voilà, pardonne-moi.
T'as Barça Real et t'as SS.
Non, mais évidemment, évidemment. Lyon, voilà. Mais alors, il y a un truc étonnant, quand même, que nous a concocté la LFP. C'est cette 7e journée qui se jouera en semaine. Alors qu'elle offrira quand même 3 derbies. Donc je ne suis pas sûr que ça va plaire à beaucoup de supporters. Il y aura Monaco-Nice, Nantes-Rennes et Montpellier-Nîmes, alors que cette 7e journée se jouera un mercredi.
Bah oui. En même temps, les déplacements sont plus courts. Donc si tu travailles, tu as une chance d'aller au match le soir.
Ils se disent peut-être qu'ils vont interdire les déplacements des supporters, déjà.
Ah oui.
Non mais c'est bizarre quand même de la mettre en semaine. C'est dommage. Franchement, c'est dommage, il y a 3 derbies.
Bah oui.
Je crois qu'on tient un pavé dans la mare que vient de lancer François là.
Voilà, c'est... Non, je remercie à Twitos, Alex Nissa du 06 qui l'avait signalé.
Merci Alex. Voilà.
Bah ouais, mais je me fais aider pour. Hein.
Bah ça va faire parler.
Oui, ça va faire parler. Tu vas voir.
À ce moment-là.
Tu vas voir. Bah oui, ça fera parler à ce moment-là. Je voulais revenir sur Moussa Diaby, officiellement au Bayer Leverkusen. Oui. On a un petit peu parlé hier. C'est officiel. Il a signé pour 5 ans avec le Bayer Leverkusen, le joueur de 19 ans, pour 15 millions d'euros et 20% à la revente pour le PSG. Il y a deux choses, moi, qui m'interpellent par rapport à ça.
Dis-nous.
D'abord, une chose qui concerne le Paris Saint-Germain, qui vend toujours des jeunes, alors qu'on pensait que la politique était de les garder. Donc là, ils ont vendu Moussa Diaby, ils pourraient perdre aussi Ntsoki, ils avaient perdu Hudson-Edouard et Ikoné il y a quelques temps. Et puis, l'Allemagne, ça c'est la deuxième chose, tu vas me dire ce qui t'intéresse le plus, qui aime les jeunes joueurs français, ça n'arrête pas, ils débarquent tous en Allemagne, ça va être encore pour Diaby.
Ouais, parce qu'ils ont du temps de jeu là-bas, on leur fait confiance, en Allemagne, on leur fait confiance aux jeunes et ils trouvent... Voilà, ils trouvent leur bonheur là-bas. Après, dans tous les joueurs que tu m'as dit, pour moi, j'en vois aucun est titulaire ou qui aurait pu être titulaire
mais...
à moyen terme au PSG. Donc, qu'ils les vendent à la rigueur,
c'est
ça fait rentrer de l'argent, tu gardes un petit pourcentage sur la plus-value, c'est toujours bien. Tu peux éventuellement mettre des clauses de rachat si jamais, tu l'as pas prévu, le joueur explose. Il y a plein de choses à faire. Un centre de formation, ça sert aussi à ça.
Ah oui, d'accord.
C'est qu'à un moment donné, tu vas former des joueurs, mais si t'as un bon centre de formation et que chaque année t'as 5-6 joueurs pas mal, il dit, tu peux pas faire entrer 5-6 joueurs dans l'effectif
du
PSG.
À chaque fois, ceux qui partent, en premier, ce sont les jeunes et pas ceux, le PSG ne veut plus, parce qu'ils ont un salaire trop important aussi.
Mais c'est
plus
pas
facile
ça. T'as vu la fin de saison, comment ça s'est passé? Il y avait des matchs de perdus à chaque fois, on tapait sur les jeunes.
Mais la seule question, c'est est-ce que les jeunes qui sont vendus sont titulaires ensuite dans de grands clubs européens et donc auraient pu prétendre à une place de titulaire
dans
au PSG.
De grands clubs, non.
Il n'y en a pas 50, non.
T'as Kingsley au Bayern, et encore, elle n'a pas été vendue, il est parti libre.
Ouais.
Puis il est parti à la Juve
voilà,
avant.
Après,
ouais.
t'as,
il y a beaucoup
t'as...
de ratés quand même. Hein.
Ouais, mais enfin, t'as quelques ratés. Joueurs, tu vois, t'as au Red Bull.
C'est pas un grand club européen.
Jean-Kevin Augustin. C'est pas un grand club, mais c'est quand même un club qui joue la Champions League.
Oui.
Tu vois, après, moi, je trouve pas ça illogique de vendre tes jeunes quand tu sais que c'est pas eux, ils vont rien t'apporter. Ouais. Après, dans la politique du PSG, on a plus l'impression qu'ils veulent garder des mecs de 38-39 ans plutôt que des jeunes de 20 ans. C'est dommage.
Et puis, Leonardo changera ça.
Bah justement,
on rappelle l'officialisation du retour de Leonardo comme directeur sportif, on l'a appris pendant ici, c'est Willy.
Et puis justement, puisque tu parles de Leonardo, les anciens joueurs au pouvoir à l'AC Milan, on connaît le remplaçant de Leonardo à Milan, c'est Paolo Maldini, officialisé comme directeur sportif aujourd'hui. On le savait depuis ces dernières semaines qu'il était très proche de ça, il sera en charge du mercato, de la stratégie et de la préparation estivale, ça c'est ce que dit le communiqué. Et puis l'autre légende de l'AC Milan qui retrouve Milan, c'est Boban, Zvonimir Boban, super joueur, qui était secrétaire général adjoint de la FIFA, qui sera chef du football, une sorte de manager général et qui aura pour objectif, et ça c'est inscrit aussi dans le communiqué, ramener le Milan dans l'élite du football mondial. Le nom de l'entraîneur n'est pas encore officiel, mais on parle de celui de la Sampdoria, Marco Giampaolo.
Il y a un chef du football qui sera au-dessus du directeur sportif.
A priori, Boban sera au-dessus de Maldini.
Mais
donc s'il n'est pas directeur sportif.
Ils sont pluridisciplinaires.
Directeur sportif qui n'a pas la direction du sportif.
C'est Maldini.
Pas sportif.
Il sera chef du foot, donc une sorte de manager général. Maldini qui sera directeur sportif.
On empile, on met des noms.
Dites-moi, le Milan, ils sont devenus pluridisciplinaires. Il y a d'autres trucs que le foot.
Pourquoi?
Si t'es un directeur du foot, c'est que devait y avoir
chef du football.
T'as un directeur je sais pas, faudrait demander à Simone Rovera, il nous dirait mieux ça.
Bon.
Donc le directeur du foot, ça veut rien dire, quoi. Voilà, c'était la conclusion.
Et puis, alors, un nouveau joueur au Real Madrid. C'est pas Eden Hazard, c'est pas Ferland Mendy. Attention, c'est le Messi japonais. Takefusa Kubo, 18 ans. Il vient d'être recruté par le Real Madrid pour 2 millions d'euros. Il touchera 1 million par an. Pas mal, quand même. Il joue en première division. division japonaise au FC Tokyo. Il avait d'ailleurs été à 15 ans le plus jeune joueur à évoluer en première division japonaise. Et ce qui est amusant, c'est qu'il était à 10 ans à la Masia, au Barça. Et ils n'ont pas pu le garder puisqu'il y avait eu ces problèmes, les sanctions de la FIFA suite au recrutement de mineurs. Là, ils ont attendu qu'il ait 18 ans, le Real Madrid, pour le faire revenir en Espagne. Donc Takefusa Kubo, on verra peut-être cette saison sous les ordres de Zidane. A priori, il va quand même commencer à la Castilla. Faudra attendre un peu. On verra. En tout cas, le PSG, semble-t-il, était dessus.
En parent pour jouer avec une quatrième division, ouais. C'est pas mal.
Et puis il sera avec le Japon à la Copa América. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, il est sélectionné avec le Japon, ce jeune joueur de 18 ans.
Très bien, merci pour ce buzzer piné. Donc dans Ici c'est Willy, la suite de la soirée va être menée sur RMC comme tous les vendredis soirs depuis près de 40 ans par Christophe Cessieux. Bonsoir Christophe.
Ah, ça rajeunit pas. Que j'officiais déjà.
Ah oui, c'est pour ça.
T'étais dans ton Youpala, tu n'avais pas encore de bar, mon petit Jean-Louis. Voilà.
C'est pas bon les Youpala. Hein, c'est pas bon les Youpala pour les enfants.
Youpala, c'est pas bon. Ah oui, c'est vrai que le jeune père de famille,
c'est ce qu'on m'a dit récemment,
est au courant. Et bah oui, le RMC Sport Show ce soir, parce qu'il n'y aura pas que du foot évidemment. On va s'intéresser à tous les événements qui vont avoir lieu ce week-end, avec notamment la finale du top 14 demain entre Clermont et le Stade Toulousain. Mais on va ouvrir dans quelques instants avec l'info du soir. C'est une confirmation, on vous le disait déjà depuis plusieurs jours sur RMC. Mais donc, Leonardo, nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain.
Parfait, bonne soirée, Willy, bon week-end.
Salut, à bon vendredi week-end prochain à tous.
Pour Ici c'est Willy, 18h 20h. Ciao.
RMC 18h 20h. Ici c'est Willy.